Ganz herzlich möchte auch ich heute Abend
cordialement, je voudrais vous saluer tous et vous souhaiter les bienvenus ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer cette réunion en chantant de ces brochures des cantiques. Nous commençons avec le cantique 8, cantique numéro 8. J'ai encore une annonce pour ceux qui n'ont pas encore de lit. Et après la réunion, vous pouvez venir devant et on s'occupera de vous. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de possibilité pour dormir, après la réunion, vous pouvez venir devant, on s'occupera de vous. Le numéro 8. Nous chantons encore le numéro 1, le cantique numéro 1, je veux.
Thank you.
Merci.
Ich glaube, wir können
Je crois que nous pouvons continuer à chanter et nous ne pouvons pas assez chanter ce cantique de notre Seigneur Jésus. Nous voulons, avant que le frère Schmitt et le frère Müller prient avec nous, nous voulons lire le psaume 121. Nous voulons nous lever pour la lecture. Le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Père céleste, nous venons à toi dans ces heures et nous te disons merci de ce que nous pouvons regarder à toi, le Dieu vivant et véritable et vivant. Tu es seul digne de recevoir l'honneur, la louange et l'adoration. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous donnes l'occasion toujours de nouveau de nous réunir. Mais nous regardons autour de nous et nous voyons combien passent sans prendre part à ce que tu fais maintenant. Ainsi, nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, de ce que tu as accordé ta grâce, de ce que nous pouvions venir et prendre part et reconnaître l'appel, ô toi, Dieu du ciel. Car c'est de toi que vient le salut, c'est en toi qu'est la rédemption et la force. Nous te remercions pour cela. Mon Dieu, bénis-nous ce soir et passe d'un rang à l'autre et d'un cœur à l'autre et parle à chacun, accorde ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions expérimenter ta parole et ouvre nos oreilles pour qu'ils entendent et entendent comme des disciples pour l'honneur de ton nom. Ainsi, nous te demandons aussi que tu puisses bénir partout sur toute la terre, partout où ton peuple se rassemble et écoute. Nous te demandons, bénis-les et accorde ta grâce pour que tous puissions avoir part aux richesses de ta maison. Nous te remercions pour cela, Seigneur Jésus. Nous te demandons aussi que tu puisses bénir et oindre les lèvres par lesquelles tu parleras. Tu sais à quoi est-ce que nous regardons et ce que nous attendons. Tu connais nos besoins et que tu puisses répondre, Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Amen. Oui, Seigneur, bien-aimé, je voudrais aussi te remercier de tout mon cœur de ce que nous sommes rassemblés ici devant ta face. C'est ton troupeau et c'est toi le berger. C'est toi qui veilles sur ton peuple. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses le bénir de la plénitude de ta face, de la plénitude de ta grâce et par la prédication de ta parole, que tu puisses produire la foi. Comme cette femme qui perdait le sang et qui a dit, si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guéri. Oh Seigneur, tu es encore le même aujourd'hui. Tu veux être touché dans la foi. Que ton nom soit loué et exalté. Je te demande que tu puisses bénir et purifier et sanctifier ton peuple pendant que le souper aura lieu ce soir. Tu as dit, j'ai désiré de prendre part à ce souper avec vous. Oh Seigneur, que ce soit, c'est la même chose. Accorde ta grâce que ce soir, ce souper ne soit pas un jugement, mais reçu par grâce. Comme cela a été déjà demandé, bénis ton serviteur de la plénitude de ta grâce. Tu es un Dieu de fidélité. Nous louons ton Saint-Nom. Nous te remercions, Seigneur, de ce que le serviteur fidèle et prudent a le message pour les vierges sages. Que tu puisses le bénir. Tu nous as accordé ta grâce et tu l'as béni durant toute l'année. À toi seul soit la gloire et l'honneur dans le Saint précieux de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu es digne.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Encore, soyez les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous avons des salutations et des souhaits de bénédiction de beaucoup de frères, de beaucoup de pays, de Moscou, de la Russie et de l'Ukraine, de la Russie blanche et de la Moldavie, et des salutations de toute l'Afrique, d'un bout à l'autre du continent. Ensuite, nous avons des salutations de Denver au Colorado, des salutations de Edmonton au Canada. Ensuite, nous avons des salutations de la Suisse, de Palerme, du frère Graf, des salutations du frère Etienne Genton, des salutations du frère Wallström, oui, et encore des salutations de tous nos frères avec lesquels nous sommes liés pour que le peuple de Dieu dans le monde entier, et cela avec le peuple de Dieu dans le monde entier. Nous avons de la visite parmi nous. Un frère du Bénin est parmi nous, peut-être qu'il pourrait se lever. Le frère du Bénin, oui, sois la bienvenue parmi nous. Il a un programme de télévision, 2 heures dans la semaine, je crois, et Dieu a pu l'utiliser puissamment, et il invite pour que nous puissions venir pour là-bas avoir des réunions. Que Dieu te bénisse parmi nous. Ensuite, nous avons notre frère Daniel de Timisoara. Lève-toi, s'il te plaît, bien-aimé frère, pour qu'on te voie, pour que tous te voient. Que Dieu te bénisse parmi nous. Nous avons le frère Didier de Paris parmi nous. Nous avons les frères de Bruxelles parmi nous. Où est le frère Tati, le frère Léonard, tous les frères, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les frères dans le ministère. Ça, c'est pour nous très important. Oui, nous avons ici aussi nos frères des pays voisins. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui portent sa parole. Ça, c'est notre prière. Le frère Müller a exprimé quelque chose qui a déjà directement touché mon cœur. Et il y a réellement un message divin pour les vierges sages qui sont attentifs à ce que Dieu, dans ce temps, a à nous dire. J'ai des salutations particulières de beaucoup de frères et sœurs des Philippines à remettre, de l'Australie, et aussi de ces régions, Dieu a d'une manière merveilleuse béni, et la réunion finale à Manila était aussi contenait plus de 1000 personnes. Il y avait aussi des frères dans le ministère des îles qui étaient venus pour écouter la parole du Seigneur et ont reçu les réponses à leurs questions. C'est merveilleux quand le Seigneur peut partout avoir ses serviteurs. Je vois ici des frères de la Finlande, des frères et sœurs de la Finlande, que le Seigneur vous bénisse particulièrement parmi nous. Nous nous réjouissons réellement de tous ceux qui viennent, qui peuvent encore venir, car ce sont des temps de disette, des temps chers, et les temps ne vont pas s'améliorer, au contraire. Mais nous avons la semaine dernière, vendredi et samedi, nous avons eu deux belles réunions à Graz, dans la Steiermark, en Autriche, en langue anglaise. C'était aussi très bien. Des frères de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, ont là-bas une assemblée, et les frères Lackner, eux, ont rétabli cette liaison, et Dieu a accordé sa grâce de l'Afrique de l'Est. Dieu a accordé sa grâce tant qu'on pouvait l'estimer, et il aura son chemin avec eux. Ensuite, nous étions à Zurich dimanche, et Dieu a de nouveau secouru et accordé sa grâce pour la prédication de sa parole. Nous le considérons pas comme allant de soi, mais nous remercions Dieu qui accorde toujours sa parole par sa grâce. Et maintenant, j'ai encore des salutations à remettre de l'Amérique du Sud, et elles sont particulièrement fraternelles, adressées à moi et adressées à nous tous. Et aussi, la dernière question est la suivante: qui est pour la première fois ici aujourd'hui? Laissez-moi voir les mains, ou bien alors levez-vous tout de suite. Oui, levez-vous. Ici, nous avons des amis. Oui, c'est très bien. Pour la première fois, que Dieu vous bénisse très particulièrement. Sentez-vous à la maison parmi nous. Nous avons, il n'y a pas longtemps, constaté que l'amour grandit, et la liaison avec le Seigneur et aussi les uns avec les autres devient toujours plus profonde et fraternelle. Je ne veux pas oublier de toujours de nouveau annoncer que Dieu voulant, et si nous sommes encore sur terre, au mois d'avril, l'année prochaine, du 6 au 16 avril, nous allons entreprendre un voyage en Israël. Du 6 au 16 avril, que le Seigneur puisse accorder sa grâce pour ce voyage. Chantons encore 2-3 chœurs, et ensuite nous allons passer à l'observation, à la prédication de la parole. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest, le chœur numéro 1, à la fin du livret. Nous voulons, avec cœur reconnaissant, pour l'honneur de Dieu, chanter le cantique numéro 1, non, le chœur. Je l'aime, je l'aime. Et encore le chœur 3. Je voudrais voir. C'est ainsi que ce sera. Après la bataille, ce sera la gloire, la joie pour toujours. Et Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux et nous serons dans une joie éternelle auprès de lui. Nous avons aujourd'hui la prédication de la prédication déjà au commencement de cette réunion en regard aux événements qui se passent dans le monde en ce moment, mais vraiment seulement très rapidement, de manière très bref, et cela pour la raison suivante: pour nous montrer que nous sommes rapprochés de la fin et que les prophéties bibliques en toutes choses s'accomplissent. Je voudrais pour cela lire une parole du prophète Daniel, le chapitre 10. Daniel, chapitre 10, verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore des jours lointains, donc ces temps-là. Je ne suis pas un expert, que ce soit dans la politique ou dans l'économie, mais des prédications de frère Branham du premier sceau, j'ai trouvé quelque chose et je voudrais le lire. Et cela concerne ce qui se passe en ce moment. Je lis du premier sceau à la page 54 en allemand, le livre sur les sceaux, et la page 167 dans le livre des sceaux en anglais. Citation: je crois, et je le mentionne il n'y a pas longtemps d'ici, ce qui va se passer aux États-Unis dans cette situation monétaire. Nous payons maintenant nos dettes par des impôts que nous allons recevoir il y a dans 40 ans. Nous sommes arrivés à ce point en arrière. Avez-vous entendu les nouvelles de Washington? Nous sommes complètement dans une banqueroute. Et quelle est la raison? Tout l'argent est terminé et ce sont les Juifs qui possèdent tout. Nous savons à qui appartiennent tous ces bâtiments, mais la plus grande partie du de la richesse du monde, c'est Rome qui l'a. Le reste, ce sont les Juifs qui le possèdent. Soyez attentifs et écoutez bien comme le Saint-Esprit me l'a montré. Et ensuite, frère Branham vient à parler de Daniel 9, le verset 27, concernant l'alliance qui sera faite pour la dernière semaine d'année entre Vatican et les Juifs. Ensuite, sur la même page, la page 55, il
dit
« Et dans ce temps, ce prince fera une alliance avec le peuple de Daniel, c'est-à-dire avec les Juifs. Cela aura lieu quand l'épouse sera enlevée. Elle ne le verra plus. » Dans d'autres passages, frère Branham dit très clairement que l'alliance et l'enlèvement auront lieu presque au même moment. Encore la dernière partie de cette citation. Remarquez-vous bien cela. Dans la dernière moitié de la semaine d'année, un prince fera une alliance avec les Juifs. Il fait cette alliance sans douter à cause de la richesse des Juifs, car l'Église catholique et les Juifs possèdent la richesse du monde. Et ensuite, peut-être encore les deux citations de la page 55. Ainsi, après l'enlèvement de l'Église, Rome et les Juifs concluront une alliance l'un après l'autre. C'est la Bible qui dit qu'elle fera alliance avec le peuple saint. Pourquoi? Pour quelles raisons feront-ils cela? Notre pays court à la faillite et le reste du monde qui base son économie sur l'étalon or également, vous le savez. Si nous vivons sur les impôts qui rentreront dans les 40 années à venir, où allons-nous? Alors, encore, il répète, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de changer la valeur monétaire et de payer les obligations. Mais nous ne pouvons faire cela. Ces titres appartiennent à Wall Street, qui est contrôlée par les Juifs. Le reste est au Vatican. Mais à part cela, les Juifs ont tout à Wall Street avec le commerce mondial. Encore une chose, de la page 56 en allemand, quand ensuite il aura tout le contrôle de l'argent, il brisera, il rompra cette alliance avec les Juifs, tel que Daniel là, le disait ici, au milieu de la 70e année de semaine, Daniel chapitre 9, verset 27, il possédera tout le commerce mondial. C'est un contrat avec le monde international, car il possédera entre les mains toutes les richesses du monde. toute la richesse du monde. Vous avez tous entendu les nouvelles. Je viens de le dire, je ne suis pas un expert, que ce soit dans la politique ou dans l'économie. Mais il y a une chose que nous avons tous compris, c'est qu'il n'y a pas de solution pour les problèmes qui existe sur Terre. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de solution politique ni économique. Je vais encore lire les versets de Daniel, Daniel, le chapitre 8, pour un peu éclaircir cela, et cela seulement pour la raison suivante, pour nous représenter devant les yeux que cela ne va pas continuer comme ça longtemps. Cela ne peut pas continuer comme ça longtemps. Daniel, chapitre 8, verset 23, jusqu'au verset 25. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. C'est ainsi que c'est écrit et c'est ainsi que nous le voyons déjà en partie, bien aimés frères et bien aimés sœurs. Les prophéties bibliques sont réellement très, très avancées dans leur accomplissement et nous le voyons déjà maintenant dans le domaine politique. Imaginez-vous cela un peu. Après la Deuxième Guerre mondiale, le partage, la division de l'Allemagne, la division de Berlin, la division de l'Europe, et cela a continué jusqu'en 1989 et ensuite 90 et 91, où 14 États ont reçu leur indépendance du royaume de l'Union soviétique. Et justement, il y a quelques jours d'ici, l'OTAN a fait des exercices en Arménie. Devant la porte de nos amis de Moscou. Et tout cela fait en sorte que le Russe, en tant que le roi du Nord et Israël, un jour vont devoir apporter le jugement comme frère Branham aussi très clairement l'a prédit. Et même, s'il vous plaît, ce n'est pas de la politique, mais je le dis seulement très brièvement, ce que nous voyons en ce moment, que ce soit dans l'Europe de l'Est ou bien au Proche-Orient, tout et encore une fois, tout se soumet dans la prophétie biblique prévue pour la fin des temps. Et nous pouvons réellement lever nos têtes et savoir que le retour de notre Seigneur est vraiment très proche devant la porte. Pour cela, je voudrais lire dans Matthieu 24, au verset 15, Matthieu 24, au verset 15, où notre Seigneur, déjà autrefois, était venu à parler de ce qui va se passer. Matthieu 24 au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi un lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ensuite, il nous est dit ce qui doit être fait en Israël, à quoi est-ce qu'ils doivent être attentifs et ce qu'ils doivent faire. Dans Marc 13, le Seigneur l'a encore plus clairement dit, dans Marc, chapitre 13, au verset 23, et suit donc la demande. Au verset 23, Marc 13, verset 23. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Au verset 14, auparavant, il disait, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, elle n'a pas le droit d'être là. Ce n'est pas sa place là-bas. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, et malgré tout, tel que dans le prophète Daniel, nous l'avons lu, ce dernier prince tel qu'on l'avons lu, il ne connaîtra aucune limite. Il va dépasser toute limite et va même s'élever contre le Seigneur. Dans Marc 13, nous avons encore le verset 27, Marc 13, le verset 27. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et ensuite arrive le verset 28 concernant le figuier. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Donc, les Juifs sont revenus du monde entier, d'un bout à l'autre de la terre. Ce n'est pas les Juifs de la Wall Street qui ont le capital du monde entre les mains, mais maintenant ces Juifs-là qui sont prêts à prêter l'oreille à la parole de Dieu, qui prennent la parole de Dieu au sérieux et qui reviennent dans le pays de leur père, dans le pays de la promesse, pour avoir part à ce que Dieu leur a promis et fera parmi eux. Nous avons aussi eu souvent à le dire et nous le répéterons. Parallèle à cela, réellement, l'appel à sortir de toutes les dénominations, de toutes les religions, l'appel à sortir de l'Église de Jésus-Christ a lieu. Et nous remercions Dieu pour le message qu'il nous a adressé et que réellement de tout notre cœur nous avons la grâce de croire et de recevoir chaque parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Il n'y en a pas un qui a besoin d'enseigner l'autre. Nous serons tous enseignés par Dieu par l'onction du Saint-Esprit qui nous enseigne comme Jean, dans son épître, l'a écrit. Le mot rassembler, nous le trouvons aussi dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel.
Von seinem Volke Israel,
36, où le Seigneur parle de son peuple d'Israël et de son rassemblement et de son retour dans son pays. Ézéchiel, chapitre 36, verset 24. Ézéchiel, chapitre 36, verset 24, je vous retirerai dans les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Et ensuite, il nous est dit ce qui va se passer quand cela aura lieu. Le verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et en relation avec cela, il est écrit au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Ensuite, suit la promesse merveilleuse. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mes lois. Et ensuite, cette promesse merveilleuse qu'il habitera en nous. Le verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Qu'est-ce que nous devons dire à cela? Nous pouvons lire encore Luc 21, verset 24. Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Mais il s'agit en fait pour nous de l'Église. Il s'agit que nous soyons appelés à sortir, que nous sortons et que nous soyons rassemblés et que nous expérimentons un bain dans la parole, lavé dans le sang de l'agneau, pour ainsi ne pas être déçus et être en train d'attendre en vain le retour du Seigneur Jésus-Christ. Que ce que le Seigneur Müller, que ce que le frère Müller, pardon, a exprimé dans la prière ici, devant le trône de la grâce, trouve son accomplissement. Que la nourriture spirituelle, la nourriture divine qui nous a été confiée, soit réellement consommée, reçue de ceux qui appartiennent à l'Église épouse, aux vierges, aux sages, qu'elles prennent part à la prédication de la parole et à l'accomplissement des promesses qui y sont contenues dans ce temps. Et ça aussi, nous l'avons souvent dit, et peut-être pas insisté, mais le frère Branham a, par exemple, en 1962, quatre fois, il a parlé de l'emmagasinement de la nourriture Et il l'a parlé dans les détails de ces choses. Et en tout, il a plusieurs fois parlé de cela. Mais pas une unique fois, il lui a été dit qu'il puisse la distribuer. Pas une unique fois. À chaque fois, il lui est dit en magasin la nourriture. Il ne devait plus venir en Europe, il ne devait plus aller en Suisse ou bien en Afrique du Sud, mais il devait retourner à Jeffersonville. C'est ce qui lui a été dit. Retourne à Jeffersonville et emmagasine la nourriture. J'écris maintenant dans la lettre circulaire sur cela. Et bien-aimés frères et sœurs, Dieu a fait en sorte que cette parole précieuse, cette nourriture divine et spirituelle, comme il est dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que cette parole révélée, précieuse, la parole de Dieu, nous avons la grâce de la porter. Nous ne sommes pas en voyage en notre propre nom ou bien dans nos propres affaires, mais nous prêchons tout le conseil, le dessein du salut de notre Dieu, et que celui qui a des oreilles, qu'il entende, réellement entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Le chemin de l'Église, avec l'Église déjà, dans l'Ancien Testament, nous le lisons, dans le psaume 127, un psaume qui nous est connu de tous, le psaume 127. Ici, il est écrit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, et sa maison, c'est nous, mais c'est lui qui bâtit que son église. Il ne bâtit pas une église quelconque, mais il bâtit son église. C'est ainsi qu'il a dit lui-même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, au verset 18, connu aussi de nous tous. Matthieu 16, verset 18, la deuxième partie.
Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde,
et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Et ça, c'est l'église des premiers-nés. L'église qui est née de la, qui est née de la parole de l'Esprit de Dieu, qui existe par la parole de l'Esprit de Dieu. Et ça, nous l'avons toujours de nouveau dit en insistant. La semence divine est la chose la plus importante dans ce temps. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Pas une interprétation, pas une explication, mais la parole, les pensées originales de Dieu sur sa parole. C'est cette semence qui a été implantée, placée dans nos cœurs. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimés frères et sœurs, sûrement que nous allons avoir à passer par plusieurs épreuves qui restent épargnées par les autres. Les attaques de l'adversaire se sont toujours dirigées contre Israël, contre Jérusalem, dans tout l'Ancien Testament, depuis son appel, depuis son exode du pays d'Égypte. Dans le Nouveau Testament, Ces attaques-là de l'adversaire se sont toujours dirigées contre l'Église, Et c'est peut-être raison que notre Seigneur a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ils seront contre l'Église, mais ils ne pourront pas prévaudre d'elle. Mais bien, frères et sœurs, j'ai aussi pensé à cela. À chaque fois que des épreuves venaient sur Israël ou alors sur l'Église, Dieu a toujours su comment il allait continuer à conduire son peuple. Dieu, déjà dans le jardin d'Éden, a su comment les choses allaient continuer, comment les choses devaient continuer. C'est vrai que l'état n'était pas bon. Ève séduite, Adam emporté dans la séduction, dans la transgression, et ensuite chassé du paradis. Mais comment est-ce que les choses doivent continuer? Adam ne le savait pas. Ève ne le savait pas. Mais Dieu, lui, il le savait. Dieu, lui, il savait comment les choses devaient continuer. Et ça aussi, nous devons nous conserver cela devant les yeux. Si la chute de l'homme n'avait pas eu lieu, le plan, le dessein de la rédemption n'aurait pas pu aussi entrer en valeur. Il n'aurait pas pu entrer en valeur. Et qu'est-ce que Dieu aurait eu? Il aurait eu des fils et des filles seulement créés, qu'il a créés. Mais c'est de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait que des fils et des filles soient engendrés, qui sont sortis de lui, qui sont de lui. C'est peut-être raison qu'il y a eu un nouveau commencement nécessaire en Jésus-Christ, voulu, le deuxième Adam, le dernier Adam, par un engendrement de l'Esprit. Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Le nouveau commencement de cette nouvelle création divine. Et ici, nous sommes nés du même esprit et de la même parole, nés de Dieu pour une espérance vivante. Nous sommes fils et filles de Dieu par la grâce de Dieu. Je bâtirai mon Église. Dans 1 Pierre, le deuxième chapitre, l'homme de Dieu a parlé de cet édifice. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Je bâtirai mon Église. Je suis la pierre angulaire. Vous êtes les pierres vivantes qui sont édifiées pour former une maison spirituelle de Dieu en esprit, pour que Dieu lui-même puisse marcher et habiter parmi nous. Ensuite, l'homme de Dieu revient à l'Écriture au verset 6. Et il dit, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. En quoi est-ce que nous devions mettre notre confiance? Ou bien, en quoi est-ce que nous devons croire? Seulement croire lui le Seigneur, faire confiance à lui le Seigneur. Lui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera aussi certain qu'il a commencé, pour le jour glorieux de son retour. Les Écritures disent, voici je mets en Sion une pierre angulaire, il relit le verset 6, choisie précieuse. Et c'est sur cette pierre angulaire que l'Église est fondée. Et la pierre angulaire est aussi la pierre de fait. Lui, celui qui a fait le commencement, c'est lui qui fera aussi la fin. Et Dieu, qui a achevé l'œuvre de la création, achèvera aussi l'œuvre de la rédemption. Encore une fois, concernant la foi, la confiance au verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, en allemand, l'honneur est donc pour vous qui croyez les promesses. Et ici, nous ne faisons pas que être spectateurs de ce que Dieu fait. Nous prenons part à ce qu'il fait. Nous recevons par sa grâce ce qu'il a accompli pour nous. Nous avons la grâce de voir cela s'accomplit, ça devient une réalité dans notre vie. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Dieu a en nous mis cette foi de nous-mêmes. Nous ne l'avons pas, ce n'est pas nous qui l'avons apporté. Ô Seigneur, tu es tout. Tu es tout. Et l'honneur est donc pour vous qui croyez les promesses, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et les incroyants rejettent cette pierre. Les croyants la reçoivent, l'acceptent. Les croyants expérimentent ce que Dieu nous a donné. Les incroyants, les incrédules rejettent. Et ça chope. Au verset 8, ça continue. Elle est pour eux un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Oui. Qu'ils sont destinés. Nous avons plus facile à croire une prédestination qui nous concerne, nous les croyants. Mais les incrédules, c'est justement parce qu'ils ne peuvent pas croire à la parole. Et dans la désobéissance, ils s'achoppent, ils la rejettent. Ils sont déterminés à s'achoper, à s'heurter. Nous avons été déterminés à être édifié sur cette pierre pour devenir une maison spirituelle de Dieu, saint en esprit. Ce qui toujours de nouveau ces derniers temps me touche et en quoi est-ce que je suis rappelé, c'est Luc 7. Où les scribes et pharisiens pour leur personne, ont rejeté le dessein du salut de Dieu. Luc, chapitre 7, versets 29 et
30.
Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Luc 7, verset 29. Bien, mes frères et sœurs, c'était pas comme ça placé à l'estimation de ceux qui écoutaient. C'était l'action de Dieu en accord avec son dessein du salut dans l'époque d'autrefois, qui, au commencement déjà, a fait en sorte que le pont soit placé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est aucun scribe pharisien qui avait donné cet ordre. C'est Dieu qui avait fait des promesses, qui avait donné des promesses. Et le temps était arrivé. Et l'heure était accomplie. Et Dieu a fait ce qu'il avait promis, c'est-à-dire Ésaïe 40, le verset 3. Une voix crie dans le désert. Frayez à l'Éternel le chemin. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et ensuite, c'est ainsi, c'est en cela que les esprits se divisent. et ça devient, les choses deviennent sérieuses. Au moment où les prophéties bibliques s'accomplissent sur terre et que Dieu fait l'histoire du salut, c'est en cela que les esprits se divisent. Les uns l'acceptent, les autres le rejettent. Au verset 30, donc Luc chapitre 7, verset 30 maintenant. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dû penser en eux? Est-ce que nous avons nécessaire, nous en tant que les docteurs de la loi de ce temps, nous qui enseignons ici Moïse et nous qui avons les Moïse et qui avons les prophètes, est-ce que nous devons nous soumettre à cet homme-là qui subitement apparaît et qui baptise? Mais comment est-ce que nous pourrions accepter de cet homme d'être baptisé? Qu'est-ce que nous, les docteurs, avons à faire avec cet homme? Et c'était le grand problème. Et quand je lis ici, il est dit qu'ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Nul à leur égard, le dessein de Dieu. Ça fait mal. C'est douloureux. Chanter des psaumes, apporter des sacrifices. Et je m'excuse si je le dis, je le mentionne ici. Mais à Krefeld, je crois que c'est la plus belle synagogue qui a été inaugurée, qui a coûté des millions et encore une fois des millions. À quoi est-ce que sert la plus belle synagogue? À quoi est-ce qu'elle sert? Si on ne prend pas part à ce que Dieu a fait et on ne le reconnaît pas. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons que remercier Dieu quotidiennement pour le grand privilège qu'il nous a accordé de croire comme le dit les Écritures et de reconnaître les promesses pour ce temps dans lequel nous vivons, que nous répétons toujours de nouveau et élevons dans chaque prédication et insistons et devons insister là-dessus, car c'est ce qui est très important, de croire comme l'a dit l'Écriture, de croire ce que Dieu nous a promis. Le mieux, ça me réussit quand j'entreprends tous ces voyages sur terre, où réellement on peut brièvement résumer le destin du salut. Mais bien, mes frères et sœurs, de quoi il s'agit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a promis? Il y a quelqu'un qui photographie, qui fait des photos, s'il vous plaît, non. On doit l'accepter ainsi, tel que Dieu, dans sa parole, l'a promis. Revenons à ce point. Si frère Branham, par exemple, parle de ce que il a été mandaté pour apporter le message avant le retour du Christ et que l'importance, il devait la placer sur ces différents enseignements-là, sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur. Il devait replacer cela sur le Saint-Geôlier. Alors, ce n'était pas sa décision. C'était la décision de Dieu. Car Dieu avait dit, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, voici, je vous enverrai un homme du format d'Élie pour rétablir de nouveau toutes choses. Et bien, mes frères et sœurs, dimanche, à Zurich, je l'ai dit, des millions d'hommes lisent les mêmes Bibles. Des millions de prédicateurs et d'évangélistes et de charismatiques, de dignitaires et de personnalités lisent la même Bible. Ils lisent le prophète Malachie, Ils lisent Matthieu 17, au verset 11. En vérité, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses. Ils lisent Marc 9, verset 12. Élie vient et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et ils lisent en passant sans s'arrêter. Pourquoi est-ce que toi tu lis et tu reconnais quelque chose? Pourquoi est-ce que toi tu lis et que cela et que la compréhension t'est accordée? Pourquoi? Parce que nous avons la grâce de prendre part à ce que Dieu a promis pour ce temps dans lequel nous vivons. Et c'est ce qui est important maintenant. Pas de ce que quelqu'un nous explique en disant « oui, ça c'est déjà passé ». Non, ce qui était passé ne me sert à rien. Moi, j'ai besoin de ce que Dieu fait maintenant. Pas de ce que Dieu a fait il y a 2000 années d'ici, mais de ce que Dieu fait maintenant. Et cela en accord avec les promesses qu'il nous a faites par la grâce de Dieu dans sa parole. Encore rapidement les versets concernant le bâtiment de l'église. Je bâtirai mon église. Et dans ce contexte, le Seigneur, dans le prochain verset, a dit à Pierre, « Je te donne les clés du royaume de Dieu. Je te donne les clés du royaume. Tu as accès. De toi, rien ne reste encore caché et voilé. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prouveront pas contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Et quand la Pentecôte vint et que le déversement du Saint-Esprit eut lieu, c'est là que cet homme de Dieu a reçu la clé pour ouvrir et pour tenir la première prédication et de dire à toute la foule rassemblée, répentez-vous et que chacun de vous se baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert l'accès et il a été dit pour le pardon de vos péchés, pour confirmer le pardon de vos péchés. Car c'est à vous qu'est valable cette promesse et à vos enfants et à tous ceux que Dieu le Seigneur appellera en aussi grand nombre. Et la question était, pourquoi est-ce que toutes ces grandes personnalités-là ne s'arrêtent pas à la prédication de Pierre et considèrent cela et refuse de se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il refuse de se laisser baptiser comme Pierre l'a ordonné? Au moment où on commence à parler de cela, ils deviennent désagréables. C'est désagréable. Je l'ai aussi vu, pas une seule fois, mais toujours de nouveau. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils rejettent, ils annulent pour leur personne le dessein de notre Dieu pour ce temps où tout doit être rétabli dans l'état primitif? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous, tribes pharisiens, pourquoi est-ce que vous, personnalités charismatiques, pourquoi est-ce que vous rejetez le dessein du salut de notre Dieu pour ce temps? Vous résistez au Saint-Esprit et vous restez dans vos doctrines traditionnelles de la Trinité et du baptême trinitaire. Vous n'acceptez pas la correction et vous n'acceptez pas qu'on vous d'être ramené donc en accord avec Dieu et sa parole. Mais vous résistez au Seigneur et vous rejetez son dessein pour votre personne. Vous l'annulez. Ensuite, alors, ça devient sérieux si, quand cette personnalité-là, ensuite, selon Matthieu 7, au verset 21, donc, devant le Seigneur, se tiendront, n'est-ce pas, et se frapperont même la poitrine et diront, « N'avons-nous pas en ton nom fait ceci et cela ?» Et le Seigneur dira, Regardez-moi, vous, vous voyez d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne sais même pas d'où vous venez. Mais Seigneur, nous avons entendons, faites ceci, cela. Mais je ne vous connais pas. Arrière de moi. Ici, nous avons un point très important, bien mes frères et sœurs. Oh, sans fanatique. Que maintenant nous devons comprendre que Dieu le Seigneur fait l'histoire du salut, fait son dessein, et que d'une manière nouvelle, le dessein de Dieu a été prêché, et que la fin doit devenir semblable au commencement. Le même baptême, la même prédication, la même pratique, tout comme c'était au commencement dans l'Église. C'est maintenant que ça doit être aussi la même chose à la fin. Et pour cela, Dieu a établi les différents ministères dans l'Église. Comme ici dans Éphésiens chapitre 4. Il est écrit, Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et maintenant la question, est-ce que nous nous retrouvons ici? Ou est-ce que nous nous retrouvons ici dans la Bible? Ou est-ce que la parole de Dieu nous place? Éphésiens 4, à partir du verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ. C'est ça, ça c'est l'objectif, le but. Au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le but que le Seigneur s'est proposé avec l'Église. Et ensuite, au prochain verset, il est dit pourquoi est-ce que cela est nécessaire. Au verset 14, ainsi, nous ne serons, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Ensuite, suit et de se soumettre à Dieu. Au verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, pas d'un apôtre, ou bien d'un prophète, ou bien d'un ministère, mais c'est de lui, le Seigneur, lui, le chef, Christ, c'est de lui que tous les liens sont assistés, que tous les dons et les ministères et les dons et les devoirs dans son royaume sont assistés par lui, que tout le corps bien coordonné et formé, et formant un solide assemblage, tire son accroissement, s'il vous plaît, selon la force qui convient à chacune, à ses parties. Donc c'est par chaque membre, à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. La croissance du corps tire son accroissement. Dans l'amour. Ici, il s'agit de l'édifice et de la croissance de chaque membre individuellement qui est lié avec la tête, avec le chef. Et ça, ici, nous avons toujours dû à le dire, eu à le dire. Notre relation doit être avec le Seigneur, au Seigneur. Et je l'écris maintenant très rapidement. Soyez sincères. Si je pouvais que rendre des témoignages que des expériences, que si je pouvais seulement rendre témoignage des expériences que j'ai eues dans les réunions de Frère Branham, mais que dans ce que j'ai vu dans les réunions de Frère Branham, mais que je ne pouvais pas parler des expériences que j'ai eues moi avec le Seigneur. Alors qu'est-ce que j'ai de cela? Avec le cœur sincère, je dois le dire. Aux États-Unis, il y a assez de frères qui disent, qui peuvent dire, le prophète m'a dit cela, le frère Branham, le prophète m'a dit cela, le frère Branham, le prophète m'a dit cela. On a seulement besoin de voir les quatre CD et chaque prédicateur dit, ça c'est le prophète qui me l'a dit. Alors la grande question suit, mais qu'est-ce que le Seigneur, toi, t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, toi? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu, de tout notre cœur reconnaissant, pour le ministère prophétique. Mais le prophète est seulement un écriteau qui nous montre comment revenir au Seigneur. Il prépare le chemin au Seigneur. Il ne se prépare pas lui-même un chemin. Aucun prophète sonne la trompette pour lui-même, pour attirer l'attention à lui, mais un vrai homme de Dieu prépare vraiment au Seigneur le chemin. Et aujourd'hui, nous avons le souper du Seigneur. Cela est devenu ainsi, cette habitude, qu'en octobre, nous fêtons le souper du Seigneur. Je voudrais pour cela lire quelques versets bibliques. Les premiers, dans Hébreux, le chapitre 9, Hébreux, le chapitre 9. Et s'il vous plaît, recevez chaque parole. Suivez de tout votre cœur. Soyez liés avec Dieu. Hébreux chapitre 9. Et ici, nous lisons verset 11. Hébreux 9, verset 11. Nous connaissons tous ce verset biblique. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, jusqu'au verset, avec son propre sang, il est entré dans le sanctuaire céleste, ayant obtenu une rédemption éternelle. La fin du verset 12, maintenant le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Aussi ce soir, que cela ait lieu avec chacun de nous. Tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté Dieu, qu'ils puissent expérimenter la grâce de Dieu ce soir. Tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté une conversion, qu'aujourd'hui ils expérimentent leur conversion. Votre venue doit avoir servi à quelque chose. Ici, aussi pour des jeunes personnes qui sont peut-être encore liées, qui ont des liens, qui peut-être encore ont un paquet de cigarettes et qui peut-être le fument. Dieu est encore présent aujourd'hui pour sauver, pour délivrer, pour nous aider de tous les liens détachés, délivrés. Le sang parle pour nous. Il nous déclare délivrés et libres. Et ensuite, nous lisons ici, nous continuons à lire ici, dans Hébreux chapitre 12 et chapitre 13, pardon. Hébreux chapitre 13, ici, ce sont les versets, à partir du verset 12. Hébreux 13, verset 12.
Deshalb hat auch Jesus das Volk durch sein eigenes.
C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Par son sang. Par son propre sang, a souffert hors de la porte. À cela, nous voulons lire dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 19, pour nous montrer des Saintes Écritures, ici nous l'avons, la confirmation, la description, Jean chapitre 19, et ici nous lisons le verset 17, Jean 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne en allemand. Il est dit au lieu du crâne à l'extérieur de la ville, qui se nomme en hébreu Golgotha. Donc à l'extérieur de la ville. Le frère insiste là-dessus. Tous ceux qui étaient à Jérusalem savent où Golgotha est. Et ici, il est écrit à l'extérieur de la ville. Et au verset 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs. » Mais écrit qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du camp, c'est peut-être raison. Repartons à Hébreux 13. Hébreux 13. Verset 13. Nous voulons aller à lui. Nous aussi, nous devons sortir de toutes les églises, de toutes les dénominations. Au verset 13, Hébreux 13, verset 13. Sortons donc pour aller à lui hors des camps, hors du camp, en emportant son propre. Si nous voulons être crucifiés avec lui, pour marcher, pour ressusciter avec lui, pour marcher en nouveauté de vie, nous devons sortir pour aller à lui. Mourir avec lui. Nous voulons donc, comme l'écrit au verset 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp. En portant son opprobre. Toi aussi et moi aussi, nous portons son opprobre. Nous sommes sortis de toutes ces églises, de tous ces différents camps de religion, camps religieux, nous sommes sortis. Et nous avons la grâce de porter le propre de notre Seigneur. Mais, à la fin, nous changerons cette propre avec la couronne. Sera servi à quelque chose. Pour le servir fidèlement. Et en ce qui concerne le souper du Seigneur, je voudrais lire particulièrement dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, pour nous représenter devant les yeux ce que cela veut dire. Dans Jean, le chapitre 6, vous connaissez tous ce verset, les pères ont mangé la manne, ils sont tous morts, et ensuite il dit ici, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et les disciples ont dit, Seigneur, accorde-nous encore en tout temps ce pain. Jean 6, verset 37. Ensuite, ici, Jésus répète toujours et dit, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, dans ce chapitre. Mais encore plus, il parle aussi du sang. Lisons cela au verset 51 dans Jean 6. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ensuite, verset 53 dans Jean 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Qu'est-ce qui est important ici? Il s'agit que dans le sang était la vie, est la vie. Et dans l'Ancien Testament, nous avons souvent considéré ces versets. Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, le chapitre 17, nous avons la description du sang et la vie qui est dans le sang. Et au chapitre 16 de Lévitique, nous avons la description de l'expiation que le sacrificateur, pour lui et pour le peuple, devait faire. Il s'agissait de la réconciliation. Il s'agissait de l'expiation. Je lis encore ces versets ici, dans Lévitique, le chapitre 16, verset 32. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été établi dans le ministère pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Et on peut continuer à lire au verset 33. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Ensuite, le verset. Le verset 34, ce sera pour vous une loi perpétuelle. Donc, l'expiation pour la fin du verset 33, pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'Assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Maintenant, chapitre 17, à partir du verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Ici, nous avons le point important. Le sang des agneaux n'avait pas le droit d'être mangé. Qu'est-ce que les hommes voulaient faire avec la vie qui est dans l'animal? L'homme a besoin de la vie de Dieu, la vie divine. Et c'est par le sang de l'agneau de Dieu que le sang de Dieu, la vie de Dieu a été donnée. Et c'est ce qui nous est montré. Celui qui boit mon sang, c'est de ça qu'il s'agissait. Lisons au verset Donc, dans le chapitre 17, maintenant, le verset 14, car la vie de toute chair, d'abord le verset 11, car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est par la vie que le sang fait l'expiation. On ne peut pas le dire plus clair que ça. Ensuite, le verset 14. Car la vie de toute chair est son sang, est dans son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez point, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car la vie de toute chair, c'est son sang, ou alors est dans son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Maintenant, pour le Nouveau Testament, il nous a montré que c'est dans le sang du Sauveur que était la vie de Dieu. La vie divine, et c'est, nous avons besoin de cette vie-là, tous, pour vivre éternellement. Et c'est ainsi que nous remercions le Seigneur, car c'est ainsi que c'est écrit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Encore de Jean 6, verset
54.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons part à l'œuvre de la rédemption que Dieu en Christ, notre Seigneur, nous a accordé. Golgotha est une réalité. Notre rédemption est une réalité divine. Déjà ici, sur cette terre, par la foi en Jésus-Christ, en l'œuvre accomplie de la rédemption. C'est ainsi que cela a eu lieu. Car notre Seigneur a dit, c'est accompli. Acceptez-le. Dans la foi, cela vous appartient. Cela vous appartient. Cela a eu lieu pour nous. Et c'est ainsi que le texte est écrit ici. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui qui me reçoit. Nous pourrons aller à Ésaïe 53 et à d'autres versets bibliques. Nous recevons notre Seigneur entièrement, tel qu'il nous a reçus, c'est ainsi que nous le recevons, et tel qu'il s'est révélé à nous. Il a versé son sang, il a laissé sa vie pour nous. Et comme je l'ai dit déjà souvent, le jour de la Pentecôte, la vie qui était en lui est revenue sur l'Église et dans l'Église. Par le Saint-Esprit, c'est ainsi que la vie de Dieu est revenue sur le troupeau des rachetés. Et maintenant, nous aussi, nous avons la grâce, nous pouvons vivre en lui, nous mouvoir en lui, et être en lui. Dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'évangile de Marc, nous avons ces paroles de notre Seigneur concernant le souper du Seigneur. Marc, ici nous lisons, oui, peut-être le chapitre 14, Marc, chapitre 14, ici, nous avons les paroles d'introduction d'établissement du souper du Seigneur dans Marc, chapitre 14. Ici, nous lisons Marc 14, verset 22 jusqu'au verset 23. Marc 14, verset 22, peut-être même jusqu'au verset 25. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Nous ne voulons pas ici entrer dans les problèmes de traduction, mais le Seigneur n'a pas versé ici la coupe et il n'a pas apporté le pain à la croix. Non, il a apporté sa chair, son corps à la croix et il a versé son sang. Mais tout ce que notre Seigneur a dit, toujours, il a dit en parabole, et il a transmis en parabole. Le sang de l'Alliance n'est pas dans la coupe. Ce n'était pas non plus à l'époque dans la coupe. Le sang de l'Alliance était le sang de l'agneau de Dieu qui a porté les péchés du monde. Et notre Seigneur et avec le vin n'est pas monté dans le sanctuaire céleste avec le vin qui était dans la coupe, mais c'est avec son propre sang, dans lequel était la vie divine. C'est avec ce propre sang qu'il est monté dans le sanctuaire céleste. Mais tel que notre Seigneur, dans Jean 6, parlait en disant, « Je suis le pain de la vie, le pain vivant. Celui qui me mange vivra. Et je suis le sang, etc. Celui qui me boit. » C'est ainsi que nous avons dans le souper du Seigneur. Cela en mémoire, c'est en mémoire à ce qui s'est vraiment passé avec le corps et la chair et le sang du Seigneur sur la croix à Golgotha. Et pour que tous puissent le comprendre bien, il est écrit au verset 25 de Marc 13, pardon, Marc 14, verset 25. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Nous aussi, une fois pour la dernière fois, nous allons ici avoir le souper sur cette terre. Et ensuite, nous le boirons nouvellement. Nous le boirons nouveau dans le royaume. Comme le Seigneur a dit, bienheureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et ensuite, nous avons les paroles d'introduction dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, pour encore une fois nous représenter cela devant les yeux, que personne doit être obligé de transformer le sang en le vin en sang et le pain. Mais c'est déjà ce que c'est. Et ici, dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, au verset 16, il est écrit, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ?» Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit ? La communion. La vie qui était dans le sang est maintenant en nous. Nous avons communion avec Dieu. Nous avons la vie, nous avons reçu sa vie. C'est pareil que nous avons communion avec lui. Le pain que nous rampons n'est-il point la communion au... Donc, la coupe, pardon, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Maintenant arrive quelque chose de très important. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Maintenant, c'est nous qui sommes le corps. Un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Bien-aimés frères et sœurs, ici est le grand mystère. En Christ, l'époux, l'épouse était déjà en lui. Elle a été sortie, elle a été tellement sortie de lui et elle lui sera ramenée. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pain? Qu'est-ce que c'est qu'un pain? Nous avons un champ de blé devant les yeux et le blé, le champ de blé est récolté. Et le blé est moulu. Et c'est ainsi que nous en faisons un pain. Tous, nous participons à ce même pain. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes un corps du Seigneur, d'une seule pièce. Nous ne sommes plus comme ça des individus, éparpillés à droite et à gauche. Mais ici, dans la communion, nous formons le corps du Seigneur, qui est constitué de plusieurs membres, mais un seul corps du Seigneur, racheté par le sang de l'agneau, sur la croix, à Golgotha. Encore les paroles, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le chapitre 11. À partir du verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset
23.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Pas seulement mon corps, mais mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangez, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est en mémoire à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Quand nous brisons le pain, quand nous rampons le pain, nous pensons en le faisant à ce que le corps, la chair du Seigneur a été meurtrie et frappée et que dans son corps, il a porté sur le bois toutes les maladies et que par son sang précieux et saint, il a couvert toutes les fautes et les péchés et il les a pardonnés. Ainsi, alors que nous allons tout à l'heure rompre le pain et prendre la coupe, c'est dans la confiance totale, dans la foi totale, sachant que cela a eu lieu pour moi sur la croix à Golgotha. C'est en mémoire que toujours de nouveau nous représentons cela devant les yeux, ce qui s'est passé pour nous à Golgotha. Quand tu prends le pain, tu penses à ton Seigneur et Rédempteur. Tu dis, bien-aimé Seigneur, sur la croix à Golgotha, tu t'es sacrifié pour moi là-bas. Quand tu prends la coupe, tu penses en disant, pour nous, dans ton sang, tu as fait la nouvelle alliance. Et c'est ainsi que nous avons la grâce d'être le peuple de la nouvelle alliance. Et nous avons la vie de Dieu reçu par la grâce de Dieu. Encore le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. De s'éprouver là, on n'éprouve pas les autres, on n'examine pas les autres, on ne juge pas les autres. Ce n'est pas un qui juge l'autre. Chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange. Il n'est pas écrit et qu'ainsi il laisse passer le pain et la coupe sans la prendre, mais ensuite qu'il mange. Si tu t'éprouves et que tu trouves quelque chose, apporte-le au Seigneur. Apporte-le au Seigneur qui, pour nous, en tant que sacrifice, s'est donné, qui vraiment sur la croix à Golgotha a donné tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait pour nous. Examine-toi toi-même, aucun d'autre. Tu te tiens devant ton Seigneur et si tu trouves quelque chose, apporte-le à Jésus. Comme le cantique le dit, dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus. Il est ton ami dans la détresse. Il est aussi en fait le souverain sacrificateur. Il est aussi le souverain sacrificateur qui a compassion avec nos faiblesses, qui nous comprend, qui comprend chacun individuellement. Que ce soit que le frère ou bien que la sœur ne te comprenne pas ou bien te comprenne, bon, cela, c'est un autre sujet. Mais lui, il te comprend. Il est venu à nous et sur cette terre, il a marché et il a tout supporté. Donc, chacun s'éprouve soi-même et ensuite mange. S'il vous plaît, acceptez la rédemption, le salut qui a eu lieu sur la croix à Golgotha. Et cela de tout votre cœur. Dieu a fait une nouvelle alliance. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nos fautes sont couvertes. Tout est couvert. La lettre de condamnation est déchirée. Acceptez-le. Et vous qui peut-être pour la première fois écoutez d'une telle manière la parole de Dieu, acceptez-le, acceptez cela et remerciez Dieu pour la rédemption par le sang de l'agneau. Remerciez Dieu de ce que sa vie en nous aujourd'hui peut être. En lui, nous vivons, nous marchons et nous sommes. Celui qui a reçu la vie éternelle, il a reçu la même vie qui était dans le sang de l'agneau, la même vie. Et la vie est dans le sang. Et c'est peut-être raison que dans le troupeau racheté par le sang, la vie et la nature de Jésus-Christ, avec tous ses attributs et ses vertus, sont manifestés, seront manifestés. À lui le Dieu fidèle, qui nous a fait grâce et nous a aimés. À lui soit l'honneur. Croyez, acceptez-le, et particulièrement, si vous croyez, si vous pouvez croire la parole et les promesses pour ce temps, bien aimé frère et sœur, je le dis dans la crainte devant le Seigneur. Ça, c'est un signe sûr que vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Tous les autres ne croient pas cela. Les promesses pour ce temps n'ont rien à leur dire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que toi, elles ont quelque chose à te dire? Pourquoi est-ce que c'est à toi qu'elles ont été révélées? Parce que tu appartiens aux élus. ne vous laissez plus accuser par l'adversaire. Rejetez l'accusateur des frères. Nous avons reçu la grâce. Nous sommes libres. Et Dieu le Seigneur nous bénisse tous et soit avec nous tous.
Amen.
Nous voulons nous lever. Nous allons peut-être chanter un chœur. Peut-être que les sœurs ont encore un cantique. Et ensuite, nous demandons aux frères de briser le pain pour nous et de rompre le pain pour nous et de préparer ainsi le souper. Qui propose un chœur que nous pourrions chanter? Tel que je suis. Chantons encore. Nous voulons maintenant nous lever et pardon, nous voulons maintenant nous recueillir devant le Seigneur. Le frère appelle les frères devant pour remercier pour le pain. Nous allons maintenant appeler encore d'autres frères. Veux-tu remercier pour le pain? Oui. Grand Dieu, nous te disons merci pour la grâce et le privilège que tu as toi-même accompli et que tu as donné. Nous te remercions de ce que tu as accompli la rédemption et ici comme symbole d'une chair, d'un corps que nous avons, que nous voyons. Seigneur Jésus, tu as été frappé, tu as été meurtri, mais ô Seigneur du ciel, c'est en mémoire pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix à Golgotha. Seigneur Jésus, nous te remercions. Toi, pour nous tous, c'est ainsi que nous te demandons, accorde ta grâce pour que nous puissions prendre part à cela et te remercier pour cela et te louer. Comme tu l'as rompu toi-même, ô Dieu du ciel, c'est ainsi que nous aussi nous le rompons et tu le béniras pour l'honneur de ton nom. Amen. Seigneur, moi aussi je voudrais te remercier pour cette alliance merveilleuse que tu as faite pour nous, de ce que nous avons la possibilité d'avoir part à ce pain, à ton corps et au sang, à ta vie. Loué soit ton nom, c'est ce que tu nous as accordé, cette certitude de ce que ta vie est en nous et que nous avons communion avec toi. Oh, cela est devenu clair pour nous aujourd'hui. Le sens, la profondeur, à toi soit la louange, la adoration, la reconnaissance. Oh, que chacun qui a part à cela soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous voulons demeurer dans la prière. Si les sœurs ont un cantique, elles peuvent le chanter.
Also, ist gut. Mein Gott, Herr.
gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
On pourrait encore ensemble tous chanter le chœur. Levez vos mains. Si lui pouvait oublier ce qui n'était pas correct devant lui, nous aussi, nous voulons oublier tout et laisser tout derrière nous et de tout notre cœur remercier le Seigneur pour la rédemption. Nous voulons encore pour un moment fermer les yeux. Je voudrais demander, est-ce que peut-être il y a des gens ici, des personnes ici, des frères et des sœurs qui veulent être inclus dans la prière, quoi que ce soit salut, que ce soit guérison, que ce soit d'autres besoins, aussi les jeunes ont des problèmes, Les personnes âgées ont aussi des problèmes. Qui a une requête particulière? Levez rapidement les mains. Oui, chacun. Oui, regardez. Le Seigneur veut réparer tout dégât. Croyez simplement. Croyez de tout votre cœur. Nous voulons chanter. Crois seulement. Et s'il vous plaît, croyez et recevez. Seigneur fidèle, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta présence. Tu es présent. Je te remercie pour cela, bien-aimé Seigneur, et tel que avec tes disciples, avant ton sacrifice, tu as fêté le souper. C'est ainsi que nos frères et sœurs, après la résurrection, ont fêté avec toi le souper aussi les uns avec les autres. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as rendu dignes d'avoir part au souper. Souper en mémoire à l'œuvre accomplie de la rédemption. Tu t'es laissé frapper pour nous. Tu as donné ton corps en tant que chef pour racheter ton corps à l'Église, pour que tu puisses habiter en nous et continuer ton œuvre et l'achever. Bien-aimé Seigneur, je te demande maintenant que tu puisses accorder à tous mes frères et à toutes mes sœurs la foi et la certitude que tu as accompli toutes choses. Que tu as accompli toutes choses. Ton sang couvre mes fautes. Mon Rédempteur, bénis tous et que tous puissent prendre part et que tous soient bénis dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous voulons nous lever et ensemble prier, remercier notre Seigneur. Père Céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour de telles heures que nous pouvions passer ensemble dans ta présence. En ton nom, écouter ta parole, la recevoir révélée par ton Saint-Esprit. Tu as oint nos yeux, tu as ouvert nos cœurs, tu as accordé la compréhension pour l'accomplissement des Écritures par ta grâce. Je te remercie pour la parole prophétique. Je te remercie, bien-aimé Seigneur, pour la parole de l'enseignement, pour la parole de l'évangélisation et pour la parole prophétique. Je te remercie de ce que tu as révélé ta parole et ta volonté. Loué sois-tu, bien-aimé Seigneur, que tu puisses laisser luire ta face sur nous et nous accorder ta paix dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois glorifié.